Je vous invite à ouvrir votre Bible dans 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. Bon, ça fait un petit moment que nous sommes là, dans ce chapitre, qu'on va lire jusqu'au verset 11, chapitre 1 jusqu'au verset 11. 1 Pierre 4, chapitre 4, verset 1 à 11. Écoutons la parole de Dieu. « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne participiez pas avec eux dans un même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés comme les morts quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous prions, Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole et nous te demandons que tu nous éclaires par ton esprit pour que nous la comprenions et que tu nous inclines aussi dans l'obéissance à la gloire de ton nom. Amen. Voilà, ça fait un petit temps quand même que nous sommes dans cette épître de Pierre et on avance tout doucement dans ce chapitre 4. Et là, on est dans une section, il y a beaucoup de choses. L'apôtre Pierre dit beaucoup de choses. Nous voulons résumer le chapitre que nous avons, la partie du chapitre que nous avons lu. Ça nous aide à comprendre. Hein. Je crois qu'on a eu un séminaire il n'y a pas très longtemps où l'orateur nous a encouragés à résumer. Chaque fois, les parties de la Bible que nous lisons, ça aide à comprendre. Alors, je vous propose un petit résumé. Vous pouvez trouver mieux, mais déjà des six premiers versets, donc versets 1 à 6, on pourrait dire que ce que Pierre dit, c'est ceci, c'est à l'image de Christ qui a souffert, les croyants doivent s'attendre à souffrir. De telles souffrances traduisent une vie qui se détourne de l'ancienne manière de vivre pour faire la volonté de Dieu qui jugera chacun selon ses œuvres. Et puis les croyants qui sont décédés, eh bien eux vivent maintenant par l'Esprit. C'est pour les six premiers versets. Et pour les suivants, 7 à 11, on pourrait le résumer ainsi en une phrase. L'approche de la fin doit nous pousser à une piété et des relations qui glorifient Dieu. Et c'est dans cette section que nous sommes, puisque nous sommes arrivés au verset 7, nous pouvons dire que du verset 7 jusqu'au verset 11, on pourrait résumer pour bien comprendre tout ce que Pierre dit ici, c'est que l'approche de la fin doit nous pousser à une piété et des relations qui glorifient Dieu. Regardez au verset 7, il dit « La fin de toute chose est proche. » Et après, il dit « Soyez sobres pour vaquer à la prière, aimez-vous d'un amour ardent, exercez l'hospitalité, servez-vous les uns les autres quelque part, hein, comme de bons dispensateurs des grâces de Dieu, bien mettez au service les dons que Dieu vous a donnés. Si vous parlez, bien faites-le comme annonçant les oracles de Dieu. Et il dit de faire toutes ces choses à la fin du verset 11, il dit afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance. Donc on pourrait dire que tout ce qu'il dit ici, c'est que la fin, l'approche de la fin de toutes choses doit nous pousser à une piété et une relation qui glorifie Dieu. Ce matin, nous voulons considérer seulement le verset 7 qui dit « La fin de toutes choses est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Alors, va considérer premièrement que dans cette exhortation que Pierre donne ici, il appelle les croyants à qui il écrit, les chrétiens à qui il écrit, à saisir premièrement la nature des temps dans lesquels ils vivent. Hein. Donc, pour nous, si nous le prenons pour nous, nous devons saisir la nature des temps dans lesquels nous sommes. Et il dit que la fin de toute chose est proche. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que Pierre veut dire par ces paroles? Quand on lit les versets précédents, encore où il parle de la souffrance, etc., que connaissent les chrétiens, est-ce qu'il veut parler de la fin de leur souffrance, tout simplement, la fin de leurs difficultés, ou est-ce qu'il veut dire autre chose? Quand on lit ce passage, on pense souvent à la fin du monde, n'est-ce pas, hein? La fin de toute chose, c'est un peu la fin du monde, la fin des temps. C'est quelque chose qui hante l'imagination. Hein. Je suis sûr que ça vous a déjà un petit peu hanté. La fin du monde, qu'est-ce que ça va être? Comment ça va être? Quand ça va être? Et les hommes de tout temps, hein, ont été un peu hantés par cette pensée de la fin du monde. Il y a beaucoup de films qui sont sortis sur ce thème. Hein? Vous en avez certainement vu certains, je ne vais pas les citer ici. Mais aujourd'hui encore, hein, on a cette hantise de la fin du monde. Peut-être pas comme la Bible la présente, mais on a quand même cette hantise de la fin du monde. Et quelqu'un disait que beaucoup de peurs sont apparues dans nos sociétés un peu civilisé. On parle de fin du monde dans le domaine climatique. Hein. On nous présente, n'est-ce pas, une fin du monde qui arrive. Plusieurs ont cru à la fin du monde avec la pandémie, avec la crise sanitaire que nous avons. Et puis maintenant, avec la guerre, eh bien, on parle de fin du monde nucléaire. Hein. Et si vous pouvez lire, il y a beaucoup d'articles là-dessus. On est quand même hanté par cette fin du monde. On parle d'apocalypse nucléaire, d'apocalypse climatique, d'apocalypse écologique, etc., etc. Et il semble même, j'ai lu, il semble qu'en France, la plus grande peur soit la crise climatique, avant le nucléaire et avant la crise sanitaire. On a fait des sondages et les gens ont une peur de ce qui va se passer à cause de tout ce que l'on annonce concernant la crise climatique. Et cette perspective de la fin, qu'elle soit climatique, nucléaire ou sanitaire, je crois, motive les gens dans un sens ou dans l'autre. Et on voit des manifestations partout pour interpeller les gens parce qu'il y a une crainte et une certaine peur. Je me souviens d'un temps, peut-être encore jusqu'à maintenant, hein, où l'on reprochait aux religions de brandir la fin du monde et le jugement à venir pour attirer les hommes à la religion ou à Dieu. Et je constate que, eh bien, la même chose est en train d'être faite de nos jours par ceux qui ne sont pas forcément croyants, parce qu'on brandit une peur d'une certaine fin, climatique, écologique, nucléaire, etc., pour infliger parfois les politiques ou les décisions dans un sens ou bien dans un autre. Donc cette cette notion de la fin des temps dans lesquels nous sommes, c'est quelque chose quand même qui interpelle les gens. Mais l'apôtre Pierre ici ne cherche pas à effrayer, il ne cherche pas à faire peur ses lecteurs, mais à les encourager à une vie pieuse, à la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous voulons considérer ici. Il leur dit qu'il faut d'abord, pour mener une vie pieuse et à la gloire de Dieu, il faut saisir vraiment les temps dans lesquels nous sommes. La fin, dit-il, de toute chose est proche. La fin, ça peut vouloir dire deux choses. Quand on lit l'Écriture, hein, à peu près, ça peut vouloir dire la cessation de quelque chose qui existait et puis qui arrive à la fin de son existence et puis qui après n'existera plus. Hein. Par exemple, Jésus dit en Matthieu chapitre 10, verset 22, il dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est-à-dire qui ira jusqu'au bout, jusqu'à la fin ici, ici le sens de « jusqu'à l'extrémité ». Mais la fin, ça peut aussi dire le plein accomplissement de quelque chose. Ici. La pleine consommation, la pleine réalisation de quelque chose. Par exemple, en Romains 10, l'apôtre Paul dit « Christ est la fin de la loi ». On peut dire qu'il n'y a plus de loi, la loi c'est fini, il n'y a plus, non. Il dit que Christ, en disant ça, il dit que Christ c'est l'accomplissement de la loi. Et Jésus lui-même a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir ». Donc il est la fin en ce sens qu'il va réaliser pleinement la loi, il va vivre pleinement la loi, il va accomplir la loi, il va amener toute chose au plein achèvement. Et l'apôtre Matthieu parle de l'apôtre Pierre lorsque Jésus a été arrêté et il dit ceci en Matthieu 26, 58, il dit « Pierre suivit de loin Jésus jusque dans la cour du souverain sacrificateur, il entre, il s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait ». C'est-à-dire ici, l'idée, c'est pour voir quel serait le dénouement ultime de la chose. Donc on voit ici que la fin a le sens de dénouement, peut avoir ce sens-là, de pleine réalisation, de plein accomplissement de quelque chose, d'un projet qui arrive à son plein aboutissement. Et c'est dans ce sens qu'il faut saisir ce que l'apôtre Pierre dit ici, quand il dit « la fin de toute chose est proche ». Il dit que le but fixé par Dieu dans l'histoire, l'état final des choses est sur le point de se manifester. Okay? Il ne parle pas de juste des choses qui vont simplement disparaître, mais il parle des choses qui vont arriver à leur pleine manifestation, à leur plein accomplissement. Et donc, il dit en sorte que la réalité, il faut saisir la réalité de la fin, de l'accomplissement proche de toute chose. C'est une réalité qu'il faut choisir. Il exprime la certitude de cette fin, de cet accomplissement de toute chose. Et c'est une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. Et partout dans l'Écriture, il est question de cette réalité, de cette fin, que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit dans le Nouveau Testament. Nous trouvons des expressions telles que la fin des temps ou les temps de la fin, dans Daniel par exemple. Nous trouvons dans la Bible la fin des siècles. Nous trouvons les derniers jours. Nous trouvons les derniers temps. Toutes ces expressions sont là pour exprimer qu'il y a une fin, un accomplissement total qui est en train de s'approcher et qui vient. Et donc l'apôtre Pierre, lors de sa prédication, par exemple à la Pentecôte, vous vous rappelez de cela, il explique à tout le peuple que la manifestation à laquelle ils assistent, rappelez-vous, le Saint-Esprit était descendu, il y a eu un tremblement de terre, un bruit, du vent, etc. Et les gens, ils ont accouru, et puis ils se posent des questions sur tout ce qu'ils viennent de voir, et puis ils trouvent les apôtres en train de parler des merveilles de Dieu dans leur langue à chacun, parce que des peuples qui venaient un peu de partout. Et l'apôtre Pierre, vous savez ce qu'il dit, parce que ces personnes pensaient que ces hommes sont ivres, et il dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il dit que dans les dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Autrement dit, il dit que la venue de Christ sur la terre, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension et la venue de l'Esprit, la naissance de l'Église, inaugure les derniers jours. Et donc, avec la venue de l'Esprit, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans la fin des temps, dans les choses qui arrivent à leur plein accomplissement. C'est ce qu'il souligne ici. Et donc, la réalité à considérer est qu'il y a une fin. Nous sommes dans un temps où nous approchons de du plein accomplissement de toutes choses telles que Dieu les a données. Et que ce temps-là, il est proche, cette fin est proche. C'est ce que dit Pierre ici. Il dit la fin, il dit pas simplement de la fin de toutes choses, mais il dit que la fin de toutes choses est proche. D'autres textes traduisent en anglais, par exemple, la fin de toutes choses est à portée de main. Comme si ce n'était pas loin, on pourrait presque le toucher, on peut presque l'entrevoir. C'est ce que Pierre souligne ici. Mais vous pouvez dire, ouais, mais Pierre, il a écrit il y a combien de temps? Ça fait longtemps, n'est-ce pas? 2000 ans. Et il a dit que la fin de toute chose est proche. Ça veut dire quoi, proche pour lui? Parce que pour nous, 2000 ans, c'est beaucoup, hein? N'est-ce pas? Il y a des gens qui parlent comme cela, les détracteurs de l'Évangile, c'est ainsi qu'ils parlent. Ils parlaient déjà ainsi du temps de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, parce que l'apôtre Pierre le souligne, il dit dans la deuxième épître de Pierre qu'il y a un temps où, dans les derniers jours, dit-il d'ailleurs, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement, d'accord, le retour de Christ qui marque la fin, le plein accomplissement de toutes choses. » Il dit, c'en est où ça? Parce que depuis la création, les choses semblent être pareilles, rien ne semble bouger. Il pourrait que nous-mêmes, nous arrive de nous laisser bercer par cette pensée. Hein. Les gens du monde le disent, hein. Vous annoncez depuis longtemps, depuis toujours, que nous sommes dans la fin, etc., etc., mais on ne voit rien qui se passe. Pourtant, l'apôtre Pierre dit, il vous faut réaliser une chose, c'est que la fin de toute chose est proche. Ça vient. D'accord ? Et c'est vrai que les croyants du premier siècle avaient la pleine conviction que ces choses allaient se passer de leur vivant. Hein ? L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, les chrétiens du premier siècle, ils attendaient la fin, le retour de Christ, hein, qui est l'événement particulier de cette fin, de cette finalité des choses. Et l'apôtre Paul écrit par exemple aux Thessaloniciens, quand il parle de la résurrection, il dit « Voici en effet ce que nous déclarons, parce qu'il y avait des chrétiens qui voyaient leurs frères mourir avant que Christ revienne, et ils se disent, mais comment ça va se passer? Peut-être qu'ils n'étaient pas de vrais chrétiens, peut-être qu'ils seront laissés, etc., parce qu'ils sont morts avant que Christ revienne. Ils pensaient que Christ allait revenir de leur vivant. Et l'apôtre Paul dit, voici, 1 Thessaloniciens 4, 15, 18, voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, l'apôtre Paul parle, hein, il dit, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne les devancerons pas. Et puis un peu plus loin, il dit encore, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux de la nuée. Ça veut dire que l'apôtre Paul lui-même avait cette conviction que ça arriverait de leur vivant. Jacques dit ceci, par exemple, il dit, soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, dit-il, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Autrement dit, qu'est-ce qu'il fait ici? Il dit, de même que le laboureur attend le fruit, vous devez attendre pour l'avènement de Christ. Mais le laboureur qui attend le fruit, il attend le fruit que lui-même il va goûter, il n'attend pas le fruit pour des laboureurs qui seront là 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans après. Donc ça veut dire qu'il attend le fruit qui va être là. Donc il dit de même que, donc il est en train de dire ici que vous devez attendre l'avènement de Christ comme quelque chose à laquelle vous allez goûter là de votre vivant. Ils avaient cette conviction que les choses vont arriver de leur vivant. Mais ce n'est pas la volonté, n'est-ce pas, de Dieu de fixer, de nous faire connaître les dates. On voit que même s'ils se sont trompés quelque part, hein, c'est pas, ils ne se sont pas trompés sur la parole de Dieu, mais ils se sont trompés sur le temps où ils estimaient que la chose allait se passer. Ils avaient une attitude, l'attitude que Dieu voulait, en ce sens qu'ils espéraient profondément et qu'ils s'attendaient profondément au retour de Christ et que leur vie était motivée par le fait qu'ils pensaient que ces choses arriveraient de leur vivant. Et c'est dans cette même disposition d'esprit que les enfants de Dieu doivent être encore aujourd'hui. Parce que si eux pensaient que c'était proche, encore, une chose est sûre, c'est plus proche de nous que ça l'était d'eux. Et donc, si eux étaient dans cette disposition, combien plus devons-nous être dans la disposition où nous croyons, où nous attendons, où nous vivons conformément à l'imminence de cette fin des choses. Dieu ne nous donne pas autorité. L'homme est curieux de nature, n'est-ce pas? Il veut connaître des dates. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont fait des calculs, hein. Ça existe, vous pouvez trouver dans les livres, etc. Ils ont fait des calculs disant en telle année, en lisant Daniel avec les espèces de chiffres codés que Daniel donne, bien, ils ont fait des calculs, les ordinateurs ont tourné, etc. Et puis on a décidé que telle date, eh bien, serait probablement l'époque où le Seigneur va revenir. Et bien sûr, ils se sont tous trompés. C'était parfois des gens qui aimaient le Seigneur, mais qui essayaient de percer un petit peu le mystère de la date, du moment précis du retour de Christ. Mais Dieu, le Seigneur a dit, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce n'est même pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Par contre, il vous faut vous nourrir de la pensée que la fin est proche et que Dieu peut venir à tout moment et être animé de la même disposition d'attente qu'avait l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jacques et les autres croyants de l'Église primitive. C'est pas la non-réalisation encore, hein, on pourrait dire, du retour de Christ ne doit pas être pour nous, pour les véritables enfants de Dieu, eh bien, un prétexte pour vivre dans le relâchement. Et ceux qui prennent cela comme cible, ce sont les moqueurs et les railleurs, comme on a lu dans 2 Pierre chapitre 3, verset 3. Donc, ce n'est pas ici ce que Pierre dit, ce n'est pas une fin chaotique des choses qui est proche, mais c'est la consommation de la pleine réalisation de toute chose telle que Dieu l'a projetée. Et en fait, ce qu'il faut saisir dans cela, c'est que nous sommes dans un temps particulier, bien sûr, mais où on va vers la fin des choses, bien sûr, mais ce que nous devons comprendre, c'est la fin qui a été décrétée par Dieu lui-même. Donc on comprend que ce à quoi il veut encourager les chrétiens, c'est de croire que Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe, et même vos souffrances, même toutes ces choses que vous vivez, etc., même les chrétiens qui meurent avant que Christ revienne, Dieu est au contrôle de toutes ces choses. L'histoire du monde, c'est l'histoire de Dieu. Elle se déroule telle que Dieu l'a prévue. Et les choses vont à leur fin et il vous faut accepter cette réalité. Il faut vivre en sachant cela. L'apôtre Paul disait, c'est l'heure de nous réveiller. Il disait aux croyants cela, c'est dans Romains chapitre 13. C'est l'heure de vous réveiller, de nous réveiller, parce que nous devons saisir, dit-il, en quel temps nous sommes. Il le dit ici, c'est important. Cela importe, pardon, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Et donc, c'est l'heure de vous réveiller. Et le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps où nous nous approchons de la pleine réalisation de toutes choses. Et Pierre veut encourager les chrétiens qui sont en train de souffrir par cette pensée. Ce n'est pas simplement la fin de vos souffrances, mais c'est le fait que Dieu va amener toutes choses à son plein accomplissement. Et vous devez vous encourager par cela. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il dit que, fort de cette pensée, il faut maintenir un esprit équilibré. Il dit, soyez donc sages et sobres, hein, le verset 7. Soyez donc sages et sobres. Qu'est-ce que ça veut dire être sage? Le terme sage traduit, je vous lis, hein, la modestie. Donc j'ai cherché ça, vous pouvez chercher vous-même dans les dictionnaires bibliques. Hein, le terme sage traduit la modestie, le bon sens, la modération, le fait d'être sain d'esprit. C'est ce que ça veut dire. Et le terme sobre, ça traduit le fait d'être calme, concentré en esprit, d'avoir un esprit qui ne soit pas intoxiqué. D'accord ? Qu'on parle de sobriété souvent, hein ? On parle de quelqu'un qui n'est pas sous l'effet de l'alcool ou de la drogue ou des stupéfiants. Il a tout son bon sens, il a toute la faculté de son esprit. Donc l'idée ici, soyez donc sage et sobre, semble indiquer qu'il faut avoir un esprit équilibré, qui ne s'emporte pas, qui ne se laisse pas conduire par les émotions, qui ne se laisse pas intoxiquer, un esprit qui évalue correctement les choses avec sang-froid, qui évalue bibliquement les choses. Il s'agit donc d'avoir un saint jugement à la fois sur soi-même et sur les choses, et de faire preuve d'équilibre. Parfois, hein, vous voyez, et on peut supposer, on l'a dit la dernière fois, que ces chrétiens à qui était destinée cette épître, ils vivaient dans la souffrance, et cette souffrance de leurs proches qui mouraient avant que Christ revienne, ça les troublait profondément. Et donc, ils se mettaient à penser une chose ou à penser des choses qui n'étaient pas justes. Ils n'étaient pas équilibrés dans leur pensée. Ils n'avaient pas une pensée juste, une pensée sage. Ils ne pouvaient pas regarder les choses avec sang-froid. Ils interprétaient mal les promesses, car leur esprit n'était pas convenablement équilibré. Ils perdaient presque leur bon sens. Et peut-être que les moqueries des détracteurs qui visaient le retour de Christ et qui disaient, mais ça, c'est vraiment, vous croyez à des choses qui n'arriveront jamais, ça fait plus de X temps que l'on existe et ces choses ne sont toujours pas produites. Et tout ça vient parfois ébranler, ça se met dans l'esprit. Et puis, on ne sait plus trop quoi penser. On est ébranlé dans son bon sens. L'apôtre Paul souligne ce point dans une église qui s'était laissée ébranler dans son bon sens. 2 Thessaloniciens chapitre 1, regardez ça, chapitre 2, versets 1 et 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 et 2. L'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne, et encore on est sous le même thème, voyez-vous, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, verset 2 de Thessaloniciens 2, verset 2, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Il dit, gardez la tête froide, soyez équilibrés, soyez sains d'esprit. Ne vous laissez pas emporter à droite et à gauche par ce qui se dit. Ne vous laissez pas troubler, dit-il, par quelque inspiration. Peut-être quelqu'un a dit, oui, moi j'ai une inspiration. Le Seigneur m'a dit que... Peut-être qu'ils ont rencontré des gens comme ça, vous en rencontrez comme ça, hein. On peut rencontrer comme ça de nos jours. Oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit que... Et puis on commence à écouter là, et on fait un petit peu confiance, et puis ça semble mettre en contradiction ce que l'apôtre Paul a dit. Et donc on commence à trébucher, à baloter. L'apôtre Paul dit, ça ébranle le bon sens. Le mot c'est vraiment ça, il y a un tremblement de terre dans le... bon sens. Il dit parfois ça peut être une inspiration, parfois ça peut être une parole que quelqu'un d'autre dit, ou parfois ça peut être une tromperie, quelqu'un qui dit oui, mais nous avons reçu une lettre de Paul qui dit que, et puis c'est pas vrai. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui pourraient se passer à cet instant-là, et qui mettaient les chrétiens ici en difficulté de réflexion concernant l'avènement de Jésus-Christ, parce que c'est ce qu'il dit, hein, concernant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Il dit, ne vous laissez pas facilement ébranler. Donc c'est quelque chose qui guette le croyant ici. Et l'apôtre Pierre souligne la même chose. Il encourage les croyants qui sont dans la souffrance à ne pas se laisser facilement ébranler dans leur bon sens. Et il leur dit donc, soyez donc sages et sobres. Les choses arrivent à leur fin, mais soyez donc équilibrés dans votre pensée. Parfois, quand on est focalisé sur une chose, on la grossit, hein, et puis ça devient la chose la plus importante, et on n'est pas équilibré, voilà, on grossit certaines vérités bibliques par rapport à d'autres, et puis on n'est pas équilibré. Et on voit le diable partout, ou on voit le retour du Seigneur partout, je ne sais pas, parce qu'on n'est simplement pas équilibré. Et aujourd'hui, le chrétien peut manquer aussi d'équilibre d'esprit, il peut manquer de sobriété et de sagesse, il peut manquer de modération, il peut manquer d'être sage parce qu'il se laisse intoxiquer par le flot d'informations qu'il peut recevoir de toutes parts. Et certainement, c'est pire dans notre époque, je pense, peut-être, je ne sais pas, mais qu'à leur époque, parce qu'il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de gens qui parlent. Tout le monde parle, tout le monde a droit de dire quelque chose, tout le monde peut dire quelque chose, et c'est très facile de tomber sur des gens qui disent tout et le contraire. Il y a des réseaux de complotistes, des gens qui inventent des histoires, qui racontent. Et parfois, le chrétien se laisse intoxiqué, parce que c'est ça que le mot veut dire, sobre ici. C'est non intoxiqué par ce qui est faux. Il se laisse intoxiqué avec les chaînes d'information en boucle qui tournent et qui tournent et qui tournent et qui tournent. D'accord ? Et à force d'écouter des choses qui tournent, on finit par croire que c'est la vérité. Et ces choses nous rendent déséquilibrés dans notre esprit. Les croyants se sont laissés ébranler dans leur bon sens, parfois en confondant le vaccin contre le Covid avec la marque de la bête, par exemple. On a vu des choses comme ça. Hein? Il y avait des gens qui posaient des questions comme cela aussi. Et qui étaient extrêmement anxieux et peureux parce qu'ils croyaient vraiment, parce qu'il y avait des gens qui l'enseignaient, et puis ils l'avaient lu, et puis etc. etc. Il y a des gens, je ne vous raconterai même pas ce que des gens, parfois, qui prétendent être chrétiens, ont dit concernant tout ce qui s'est passé dans le Covid. On peut être extrêmement vite déséquilibré parce qu'on est exposé médiatiquement à plein de choses. Et on reçoit. J'ai vu ça sur WhatsApp, là, sur TikTok, je ne sais pas quoi, là. Ouais, il paraît que Christ, il est à Aulnay. Ah, on y va. Hein. Il dit non, n'y allez pas. Il dit ça n'a pas de sens. Soyez équilibrés. Soyez sobres. Soyez sages. Il dit n'y allez pas et même ne le croyez pas. Il dit car il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Il dit voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Mais pourquoi est-ce que je ne dois pas le croire? Pourquoi est-ce que je ne dois pas y aller? Vous êtes-vous posé la question? Parce que Jésus a déjà dit comment les choses vont se passer. Il dit, de même que l'éclair naît d'un côté et qu'il apparaît de l'autre côté, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Personne ne va le rater. Donc, ce n'est pas la peine de courir pour aller le chercher, tu ne vas pas le rater. D'accord ? Voilà pourquoi il ne faut pas le faire. Donc, il faut nourrir sa pensée avec les bonnes informations pour ne pas se laisser intoxiquer par ce qui est faux. Alors, ça m'amène à ce point. Comment faire pour être équilibré dans sa pensée ? Il faut se nourrir avec la parole de Dieu qui est la vérité. Si vous passez plus de temps à écouter LCI BFM TV. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des informations ce soir, ce n'est pas ce que je dis. Je dis le temps que vous y passez. D'accord ? Et puis, la Bible, c'est qu'un petit pourcentage de votre temps, vous allez être intoxiqué. Vous ne serez pas sobre et sage. Et vous serez ébranlé dans votre bon sens. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Si je ne me nourris pas vraiment que de la parole de Dieu, qui est la vérité, eh bien, je serai ébranlé dans mon bon sens. Et que de choix nous faisons, que de choses nous pensons, simplement parce que nous ne connaissons pas. Nous avons des avis sur tout. On pense que l'on connaît telle chose, même on pense que l'on connaît certaines choses bibliques, certains principes bibliques, nous pouvons penser que nous les connaissons, alors que nous ne les connaissons pas. Et le jour où quelque chose d'autre va arriver, nous serons ébranlés, parce que nous n'avons pas suffisamment étudié et approfondi la vérité de la parole de Dieu. Donc c'est une exhortation pour nous ce matin de nous adonner vraiment à la lecture de la parole de Dieu, de baisser tout le reste, etc. Je peux avoir peut-être des prédicateurs préférés par-ci, des machins préférés par-là, etc. La parole de Dieu d'abord, laissez-nous nourrir d'abord par la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être écouté, mais il faut bien savoir. Si on n'est pas comme les chrétiens de Béret, si on ne sait pas ce qu'est la vérité, on ne saura pas que c'est le mensonge qu'on nous présente. Et la manière la plus sûre d'éviter l'intoxication, d'accord, c'est de se nourrir de la vérité. Si on se nourrit de la vérité, on reconnaît l'erreur. Mais on ne connaît pas la vérité quand on a l'habitude de voir que l'erreur. Hein? Je crois que c'est dans Jérémie où il était dit, « Comment pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumé au mal ?» Celui qui est accoutumé au mal, il ne peut pas faire le bien. C'est impossible. Celui qui est accoutumé au mensonge, il ne discerne pas la vérité quand la vérité arrive. Mais celui qui est accoutumé à la vérité, il discerne le mensonge. Quand le mensonge vient. D'accord ? Et c'est ce qu'on dit souvent, hein, on n'apprend pas aux gens à reconnaître les faux billets, on leur apprend à reconnaître les vrais. Et quand ils ne trouvent pas les caractéristiques du vrai dans le faux, ils savent que c'est un faux. C'est comme ça que ça marche aussi. Donc comment maintenir cet esprit équilibré en ne se laissant pas intoxiquer ? Eh bien l'apôtre Paul donne un moyen, je ne vais pas prendre le temps de le regarder, mais c'est dans Philippiens chapitre 4, verset 8, que vous connaissez bien, il dit quoi ? Que tout ce qui est, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc on a un filtre ici. Et on doit tout faire passer par ce filtre-là. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est honorable ? Est-ce que c'est louable ? Est-ce que c'est vertueux ? Est-ce que c'est digne de louange ? Est-ce que ça mérite l'approbation ? Et sinon, il faut écarter. Et si oui, ben je peux commencer à considérer les choses. Et la parole de Dieu, elle seule, passe à travers tous ces filtres-là. Ça, c'est la deuxième chose, maintenir un esprit équilibré. Et puis, dernièrement, Pierre dit ici qu'il faut s'en remettre à Dieu. Donc il dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la. Soyez donc sages et sobres. Et puis dernièrement, il dit pour vaquer à la prière. Et donc ça veut dire qu'il faut s'en remettre à Dieu. La prière traduit ici un mot qui veut dire se placer devant, hein, se placer devant Dieu. C'est dans la prière qu'on peut se remettre à Dieu. Donc quand on parle de prière, on parle du fait de se remettre à Dieu, de prier. Et certainement, les croyants auxquels il écrivait, avec ces difficultés qu'ils vivaient, ne passaient pas suffisamment de temps dans la prière. Ou peut-être s'ils priaient, leur prière n'était pas motivée par un esprit équilibré, une pensée juste sur les choses. Et c'est pour ça qu'il dit, la fin de toute chose est proche, soyez sobres et sages, pour vaquer à la prière correctement. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On ne le dira pas assez. La vraie conscience de la réalité de la proche fin, si vous voulez, hein, eh bien, pousse normalement un esprit sage et sobre, un esprit équilibré à la prière. Quand j'ai l'impression d'avoir du temps, je me trompe, puisque la Bible dit que la fin de toute chose est proche. Quand j'ai l'impression d'avoir du temps, cela me pousse en général à la paresse spirituelle. Je ferai ça demain. Okay? Il faut prendre du temps pour prier, mais je prierai ce soir quand je rentre, ou je lirai plus tard. Il faut, voilà, j'ai pas, mon esprit n'est pas très clair, donc peut-être il vaut mieux que je fasse un jeu sur l'ordinateur, et puis après, bon, quand je pourrai, je ferai. On a le temps, n'est-ce pas? Et quand on est jeune, on pense qu'on a le temps. Quand on est vieux, parfois, on peut penser qu'on va vivre encore un peu plus. On a toujours le temps de faire ce qu'on devrait faire. Hein. Mais ici, Pierre semble dire que celui qui est conscient que la fin de toute chose est proche, il cherche à maintenir, à se nourrir avec des choses saines pour pouvoir avoir un esprit équilibré sur toutes choses, sur ce qu'il voit dans les informations partout, avoir une pensée juste sur ces choses. Et surtout, il prie. Il s'en remet à Dieu. Peut-être qu'il ne comprend pas pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Il ne comprend pas pourquoi cette souffrance, elle est comme ça. Pourquoi certains chrétiens, à l'époque ici, étaient persécutés, étaient martyrisés. Ils ne comprennent pas tout cela. Mais ce qu'ils font, ils savent que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et ils s'en remettent à Dieu dans la prière. Et c'est ce que Jésus faisait. L'apôtre Pierre parle de prière à plusieurs endroits dans cette épître, sans prononcer parfois le mot prière. Mais je vais vous en montrer une où il parle de prière concernant Jésus, chapitre 2, regardez 1 Pierre, chapitre 2, verset 23. Chapitre 2, verset 23. Il dit, il ne s'est point trouvé en lui de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, il parle de Christ. Maltraité ne faisait point de menace, mais il faisait quoi? Il s'en remettait à celui qui juge justement. Mais comment est-ce que Jésus s'en remettait à celui qui juge justement? Comment il le faisait à votre avis? Dans la prière? Comment est-ce que l'on s'en remet à Dieu? Parfois, nous pouvons dire, je m'en remets à Dieu. Je me remets au Seigneur. C'est une manière de dire, parfois, je fais rien et puis je laisse Dieu faire. Mais ce n'est pas comme ça qu'on s'en remet à Dieu. On s'en remet à Dieu dans la prière. Se remettre à Dieu, ça veut dire se placer devant lui, dans une dépendance à lui, dans la prière. C'est ça que Jésus faisait. On voit la vie de Jésus, on voit comment il s'en remettait à Dieu. 1 Pierre 4, verset 19, regardez, il dit « Ainsi donc, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils remettent leur âme au fidèle Créateur. » Ils disent dans la prière à Dieu « Je te remets toutes choses. » Ils sont en prière, c'est une manière de parler de prière ici. Donc, quand Pierre dit ici « La fin de toute chose est proche, soyez donc sobre et sage pour vaquer à la prière. » Il dit, vous devez vous en remettre à Dieu constamment dans la prière. Et celui qui est un véritable enfant de Dieu, qui est conscient que les choses vont à leur fin, il cherche l'équilibre dans son esprit, sainteté dans son esprit, et il prie. Il se place constamment devant Dieu. Est-ce que vous ne priez pas davantage lorsque vous êtes malade, très malade, à l'article de la mort? Pas si ça vous est déjà arrivé. D'accord? Mais bon, mais j'ai eu le Covid et j'étais pas très bien. Je peux vous assurer que j'étais pas très bien. On prend la prière d'Ézéchias et on lit ce qu'il dit. Ne me retire pas. Je paraphrase à la moitié de mes jours, hein, quelque chose comme ça. Hein. On prie Dieu, on le supplie de ne. On a une perception différente des choses. Lorsqu'on a la conscience que ce pourrait être la fin. Et quelqu'un disait que même parfois, un prisonnier, un brigand, dans sa prison, attendant sa mort, quand ça approche, il y a des choses qui se passent dans son esprit. Parfois, il peut même arriver à prononcer une prière. Ça peut arriver. Parce qu'il est conscient qu'il ne peut rien faire. Et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que de s'en remettre à quelqu'un qui peut tout faire. Et donc celui qui est conscient que ce que la Bible dit, c'est la vérité, il s'en remet à Dieu dans la prière. Il prie. Et c'est pour cela que la prière est la caractéristique particulière de l'enfant de Dieu. Et c'est la chose la plus difficile à faire. Pierre ne dit pas, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sobre et sage pour prêcher ou pour évangéliser ou pour servir dans l'église ou pour chanter dans la chorale. C'est pas ça qu'il dit. Et ces choses sont importantes. Il dit, soyez sobre et sage pour prier, vous mettre dans une relation intime avec Dieu. Parce que c'est ça qui est la chose la plus importante. C'est plus facile de prêcher que de prier. C'est plus facile de lire sa Bible que d'être dans un temps secret, vraiment sérieux avec Dieu. C'est difficile. Moi, je trouve que c'est difficile. Et je pense que c'est difficile pour chacun de nous. Sinon, la Bible ne l'aurait pas écrit comme ça. Les disciples n'ont jamais demandé à Jésus, enseigne-nous à chanter. Ils n'ont jamais dit, enseigne-nous à mémoriser. Ils n'ont jamais dit, enseigne-nous à prêcher comme tu prêches. Pourtant, Jésus a prêché. Mais il y a une chose dans la vie de Jésus qui les a marqués et qu'ils ont désiré. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Parce qu'ils étaient conscients de ce manque dans leur vie. Et quand Jésus les a pris avec lui dans le jardin de Gethsémané, et qu'il est allé, qu'il a prié, bien il est revenu, il a dit, mais vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Il a dit, veillez et chantez. Veillez et prêchez. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La prière est le meilleur rempart contre la tentation, contre la chute dans la tentation. C'est le meilleur rempart. Lorsque les disciples de Philippe sont anxieux à cause de tout ce qui se passe, l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu en téléphonant aux frères. En mettant ça rapidement sur WhatsApp. Non, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et tout le monde dit, il dit, vous communiquez avec Dieu. Quand vous êtes inquiet, qu'est-ce que vous faites? Vous communiquez avec Dieu. Quand vous voyez pandémie, guerre et tout ce qui se passe, vous êtes inquiet, vous ne comprenez pas. Lisez la parole de Dieu aussi pour avoir votre esprit. Mais qu'est-ce que vous, remettez-vous à Dieu dans la prière. Je ne comprends pas tout ça, Seigneur, mais je sais que tu es au contrôle de toutes ces choses. Alors la question pour nous, pour moi et pour vous ce matin, c'est est-ce que nous prions? Est-ce que nous prions tel que l'Écriture nous demande de prier? Dans notre vie individuelle, dans notre vie de famille, mais aussi dans notre vie communautaire. Franchement, s'il y a une réunion, en général, dans les églises, qui est la plus désertée, c'est la réunion de prière. Je ne sais pas combien nous sommes ici ce matin. Je n'ai pas compté. Peut-être une centaine de personnes. On sera peut-être 10 fois moins à la réunion de prière. 10 fois moins. Pourquoi? Parce que la prière, c'est difficile. Parce que c'est dans la prière qu'on voit le véritable amour pour Dieu. Quand une église se réunit pour prier, cela manifeste qu'elle est consciente de la fin, que la fin est proche. Cela témoigne qu'elle a un esprit sobre et sage. C'est ce que l'Écriture nous enseigne ici. L'apôtre Paul a fondé l'église de, on parlait ça avec les jeunes hier, jeudi, je sais plus, au vendredi, à la réunion des jeunes, à Philippe. Il a cherché un petit groupe de. Il est allé à un lieu où il savait que se trouvait un petit groupe de femmes qui est en réunion de prière. L'apôtre Pierre, lorsque le Seigneur le délivre miraculeusement de la prison, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit et puis il dit, où est-ce que je vais aller? Chez Marie. Il y a quoi chez Marie? Lisez Actes chapitre 12, une réunion de prière. Dieu envoie Ananias voir Paul lorsque Paul vient de se convertir. Dieu dit à Ananias, va voir cet homme, il se trouve quelque part. Et je t'envoie vers lui. Ananias, il a peur, hein, parce qu'il sait que Paul était venu avec des lettres pour enfermer les croyants. Et vous savez, la seule chose que Dieu donne à Ananias comme certitude que Paul est un chrétien, vous pouvez lire ça, elle lui dit, car il prie. Il n'est pas, il est en train d'étudier l'Ancien Testament à fond, à fond, à fond, là, pour remettre son esprit en ordre. Il dit, il prie. Il prie. Il prie vraiment. Alors la question, je la pose à vous, je la pose à moi aussi, parce que, voilà, je suis le premier à interpeller là-dedans. Est-ce que nous prions? Est-ce que nous avons du temps que nous mettons à part pour prier Dieu, conscient que nous sommes dans les derniers temps, que tout ce qui se passe, nous ne comprenons peut-être pas, mais que Dieu est au contrôle et que nous sommes dans les derniers temps. Daniel apprend la fin de toute cette captivité en Babylone, il prie. Ézéchias reçoit la lettre que lui donne Sanchérib et qui dit, voilà, on va vous massacrer. Il prend ça, il met ça devant Dieu, la Bible dit, et il prie avec. Et c'est comme ça que nous devons vivre aussi. Mais pour prier Dieu, il faut le prier de la bonne manière. Il faut le prier par Jésus-Christ. Et donc, il faut venir d'abord à Christ. Si vous ne connaissez pas Christ, vous ne pouvez pas avoir accès convenablement à Dieu. Parce que c'est par Jésus-Christ que nous avons un libre accès dans le sanctuaire. Et donc aujourd'hui, c'est le jour du salut où vous pouvez venir à Christ véritablement dans la repentance et dans la foi, afin de pouvoir prier ce Dieu connaître une véritable relation avec lui. Comment l'approche de la fin dirige-t-elle notre vie? C'est le titre du message ce matin. Comment l'approche de la fin dirige-t-elle notre vie? Dans la recherche d'un équilibre d'esprit spirituel, dans la prière véritable à Dieu ou dans autre chose. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous conduise vraiment dans sa parole, à la mettre en pratique, à être obéissant. Prions-le, demandons-lui, Seigneur, donne-moi un esprit sobre, donne-moi de me nourrir par ta parole chaque jour. Et donne-moi de mettre du temps à part pour te prier régulièrement, tous les jours. Permets-moi de m'engager à assister à la réunion de prière de mon église. Chrétien qui n'assiste pas à la réunion de prière de son église, mais ce n'est pas possible. Il y a des choses, des fois on ne peut pas faire des choses, c'est vrai, mais quand on peut les faire et qu'on ne les fait pas, ça indique quelque chose, chers frères et sœurs. On peut dire tout ce qu'on veut. C'est le critère biblique qui est le bon critère. Et Pierre dit, voilà comment vous devez vivre dans la fin des temps. Vous devez prier. Pour vous-même, en particulier, mais avec les frères et sœurs aussi de l'Église. La prochaine fois, nous verrons aussi qu'il faut nous aimer, mais ça c'est plus tard. Mais il faut aussi d'abord prier. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole et je te demande que tu nous aides parce que nous sommes conscients de notre faiblesse dans ces domaines. Nous avons besoin de nous soumettre à toi, être obéissants, à ne pas nous laisser intoxiquer par ce flot d'informations que nous pouvons recevoir. Nous nous agissons, nous réagissons par rapport à ce que nous voyons, que nous entendons. Nous épousons même parfois les réponses que le monde donne parce que nous ne connaissons pas suffisamment ta parole, parce que nous ne la méditons pas, parce que nous ne nous exposons pas suffisamment à son enseignement. Oh Dieu, aide-nous, pardonne-nous pour cela, et aide-nous à chérir cette parole, à faire d'elle la joie et l'allégresse de notre cœur, qu'elle soit dans notre pensée, qu'elle soit dans notre cœur, qu'elle soit dans notre bouche, que nous la méditions, afin de réfléchir de manière sage, de manière saine, afin de non pas voir les vérités de ta parole à travers les circonstances que nous vivons, mais afin de voir et d'évaluer les circonstances par la vérité de ta parole. Seigneur, nous te prions aussi pour que tu nous aides à prier, à rechercher ta face, à nous en remettre à toi, comme le faisait Jésus, comme l'a fait Paul, comme l'a fait d'autres de tes disciples, que nous puissions constamment nous tourner vers toi, que nous ayons ce temps secret, dans le secret, comme ta parole nous le commande aussi. Nous pouvons chercher ta face dans la prière. Que nous soyons engagés dans les rencontres de prière de notre Église, que nous puissions ainsi porter les fardeaux les uns des autres. Ô Seigneur, que nous ne dormions pas comme les autres, mais que nous puissions mesurer dans quel temps nous sommes, que nous soyons sobres et sages pour vaquer à la prière. Amen.